Top Music.
Oui, je suis une femme, c'est une identité, sa femme.
Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois.
C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
Bienvenue sur le podcast des Grandes Girls. Un talk imaginé par des femmes, pour des hommes et des femmes.
Si les Grandes Girls l'ouvrent, c'est pour faire entendre votre voix. La voix de celles et ceux qui osent et font bouger les lignes. La voix de profils inspirés et inspirants dans la région, mais pas que.
Engagé, mais surtout pas excluant, le podcast des Grandes Girls parlera actu, culture, société, santé et tendance.
Je suis Katia Martin.
Je suis Caroline Lévy.
Nous sommes les Grandes Girls.
C'est parti.
C'est parti pour cette reprise. C'est la première des Grandes Girls depuis des mois de confinement. Du coup, on nous a lâchés. Donc, je vous laisse imaginer ce qui va se passer pendant cette petite demi-heure pour ce podcast. Nous sommes de retour. Caroline, fidèle au poste, à côté de moi. Alors, on ne respecte pas la distanciation sociale.
Tout de suite, tu lances. Bien sûr qu'on l'a dit, qu'on la respecte, mais par la pensée. Enfin, si on a passé du temps ensemble, on a pris toutes les mesures, donc forcément.
Mon acolyte, je suis ravie de te retrouver. Et autour de ce plateau, nous avons évidemment Annabelle.
Oui, coucou poste,
qui est contente aussi d'être
mais
là.
Bien sûr, avec distance de sécurité aussi.
Ouais.
Et puis pour cette reprise, hein, on est toujours sur l'actualité, une semaine un peu particulière, puisque à l'honneur sont les mamans avec la fête des mères. Et on s'est dit, quelle est la maman qui nous inspire, qu'on aurait envie d'inviter pour parler de son rôle de maman, mais pas que, parce qu'une maman n'est pas qu'une maman. Eh bien, Sophie est avec nous. Bonjour Sophie.
Sauf. Mademoiselle Sauf.
Mademoiselle Sauf.
Sophie, c'est son prénom en même temps. Tu ne te trompes pas en la présentant par son prénom qui est Sophie finalement.
Mais figure-toi qu'on, quand on me croise en ville, des fois on me dit c'est Mademoiselle Sauf. Je m'appelle Sophie accessoirement, mais effectivement, pour les intimes, Mademoiselle Sauf.
Donc, Mademoiselle Sauf, Sophie pour les intimes, Sauf Sauf ou Soso pour les intimes, non Soso, non?
Non, pas Soso.
Non, même pas.
Non,
ah,
non, je suis pas Soso, Soso. C'est Sorna.
Non,
c'est
Soso, ouais.
Ah oui, c'est Sorna. C'est plutôt ouais. Sorna, oui.
Alors, on te présentera, on en saura un peu plus sur toi, mais en tous les cas, quelques mots. Maman, certes, mais aussi consultante en images, mannequin, influenceuse. Ça lance aussi des collections de fringues. Bref, tu t'arrêtes pas, super active et tout ça avec trois enfants. Donc, on va en parler. Mais on démarre tout de suite.
Eh ben oui, puisque tu fais le lien, effectivement. On ne savait pas, on sait pas trop comment définir Mademoiselle Sauf, donc Sophie. On va continuer à t'appeler ouais, Sophie, hein, même si nos auditeurs et auditrices voilà, pourront évidemment consulter les réseaux sociaux sous Mademoiselle Sauf. On s'intéresse à toi parce que, comme l'a dit Katia très justement, en fait, tu es une maman inspirante. Mais
gentil.
Pas que. Évidemment, alors, hit girl, slasheuse, on sait qu'aujourd'hui, on cumule les casquettes, hein, modèle, conseillère en image, en relooking. Tu t'es même lancée aussi dans les collaborations avec des marques en tant qu'égérie et aussi dans la co-création hein, de lignes. Tu vas nous en parler. Mais en fait, pourquoi on s'est dit que c'était intéressant de te recevoir, c'est que quand on consulte tes réseaux, la première chose qu'on voit et que tu affiches clairement, c'est la notion de maman. Tu te présentes, le premier mot qui est associé à ton nom, c'est maman, femme active, modèle. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi mettre ce statut-là, qui est un statut évidemment inhérent à chaque femme qui est maman, mais pourquoi le mettre en premier? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu
le rôle number one?
Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ton premier rôle?
Mais c'est ma priorité, ça c'est une certitude. Hein. Je dirais être maman de trois enfants, ça me prend quand même pas mal d'heures dans la journée. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui c'est plus pour montrer qu'on peut être une femme active justement et en même temps être maman. Les clichés d'il y a quelques années, ils sont bien terminés. Aujourd'hui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est même pour ça que moi je me suis relancée dans une maternité récemment où on aurait pu dire bah non finalement elle a des grands enfants c'est le temps de passer à sa vie professionnelle maintenant hyper active et au contraire je me suis dit non alors ça demande beaucoup d'organisation ça c'est certain mais c'est faisable aujourd'hui on peut être maman épanouie avoir une vie professionnelle active tout est possible et c'est vraiment ce que je souhaite aussi à travers les réseaux mettre en avant à dire on peut y arriver.
Parce qu'en fait, on a vu évoluer, alors on va revenir un petit peu sur ton parcours, hein. On t'avait reçu dans une, dans d'autres émissions.
Ça remonte en plus.
Ouais, quand tu arrivais à Strasbourg quand d'ailleurs, ouais. Quand tu es à Strasbourg, tu débutais dans le mannequinat. Enfin, débutais.
Non, justement, elle se relançait dans le mannequinat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette notion d'âge, déjà à l'époque où tu avais un profil intéressant, puisque en tant que modèle, un âge où a priori, on est plutôt on est en fin de carrière. Tu avais plus de 35 ans, il me semble, oui. À l'époque. On dirait que c'était il y a 50 ans.
À l'époque où tu avais 35 ans.
Mais c'est vrai que pour une carrière, pour lancer une carrière dans le mannequinat, c'est assez tard. Mais tu assumais pleinement. Et c'était pour ça que tu étais venue, c'était pour dire, mais au final, on peut s'assumer en tant que femme et on peut avoir une autre vie professionnelle orientée sur l'image et sur le mannequinat à un âge où, a priori, on ne l'a plus. Et c'est pareil aussi, enfin, c'est ce que je ressens sur tes réseaux sociaux, sur le fait d'être maman. Alors pour la troisième fois effectivement, à un âge où on met moins en avant le fait d'être nouvellement mère et c'est devenu presque aujourd'hui le fil conducteur de l'ensemble de tes posts. Alors pas tous tes posts hein, sur les réseaux sociaux, mais en tout cas il y a un fil conducteur sur le fait que ta petite dernière qui s'appelle Romy,
voilà,
qui est adorable, est très présente et on voit que ça fait partie intégrante de ta com, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le personal branding est extrêmement important quand on veut se vendre et ça fait partie de ta communication, le fait d'être maman.
Ah ben, en fait complètement, moi je crois qu'à l'époque quand j'ai voulu me relancer, ça a déjà un peu cassé les codes, donc c'était toutes ces périodes-là où finalement on faisait déjà attention ne serait-ce qu'au physique, où c'était pas les femmes toutes fines n'étaient pas uniquement mises en avant, il y avait toute morphologie, tout âge aussi, et de plus en plus aujourd'hui les marques se différencient justement en mettant tout profil en avant, et c'est là où moi je suis entrée un petit peu, je suis revenue on va dire au bon moment, et où tout s'est décanté positivement, et aujourd'hui évidemment ma dernière, même si les trois finalement les enfants sont mis en avant, parce que sur les réseaux sociaux je vends un petit peu ma vie. Alors c'est souvent, j'aime bien préciser qu'on a l'impression de vivre avec moi, mais encore faut-il savoir qu'on montre ce qu'on a envie de montrer. Souvent aussi ça part, oh, t'as une vie de rêve, attendez, moi il y a aussi des journées qui commencent mal, sauf que forcément sur les réseaux je vais pas vous étaler non plus toutes les, alors je mets des fois aussi en
le
avant
le moment où tu t'engueules, attends je filme, attends.
Chérie,
dis-moi ce que tu m'as dit.
Non mais Lance le direct.
C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que forcément comme ça sur les réseaux, vu de l'extérieur, ça dit ah bah purée, c'est super chouette. Il y a aussi plein de moments qui sont plus compliqués, mais par contre effectivement, mes enfants font partie intégrante de cette vie-là que je mets en avant.
Et ça les amuse.
Ça les amuse. Alors le grand qui a 15 ans, de plus en plus, il dit non maman, ne me filme pas, ne me montre pas. Parce qu'il y a forcément, il a ses copains, ses amis à l'école qui suivent certains mon actu, et donc il ne veut pas toujours être mis en avant. Mais sinon les autres, ça les amuse, ouais, ils aiment ça et ils jouent. Alors ils jouent le jeu, non, parce que finalement, il n'y a rien qui est posé. C'est des moments de vie que je partage, que j'essaie de montrer.
Oui, mais il y a quand même... Tu sais utiliser les codes actuels et les outils actuels du digital. Hein. On parle devant notre experte Annabelle qui évidemment va nous éclairer de son expertise dans pas longtemps. Mais est-ce que tu trouves que toi ça fait vendre le fait de mettre... Alors je dis pas que tout est pensé à l'avance, mais tu maîtrises quand même ces codes-là. Est-ce que tu as l'impression que depuis que tu les mets plus en avant et depuis que tu as eu ta dernière et que tu as quand même été transparente, on a participé quand même,
même
au moment
à ma
où
grossesse.
Tu l'as annoncé, la grossesse, oui. Tu as vraiment été dans la confidence hein, avec ta communauté où tu partages les grossesses, les moments difficiles, les moments de joie, les moments difficiles, même quand il y a des points d'ombre parfois, tu te livres. Est-ce que tu as l'impression que ça fait vendre? C'est une vraie question.
En fait, c'est pas forcément une question, ça fait vendre, mais je crois que on a les réseaux sociaux, on sait que c'est utilisé aujourd'hui par des marques, et je pense qu'on se différencie en se disant, moi, les gens s'identifient à moi. Je reste, même si je me mets en avant, si je suis mannequin, consultante en image, je reste une femme comme tout le monde. J'ai des enfants, j'ai les mêmes emmerdes que tout le monde, et je pense que justement, moi, l'idée, c'était de me dire, je partage ma vie un petit peu comme je la vis, comme je vis ma grossesse, comme je et que forcément, beaucoup plus de femmes se sentiront concernées en se disant bah, tu vois, finalement, elle est comme nous. Bah ouais, parce que on a toutes un petit peu des similitudes et que c'est important de se dire je voulais pas. En fait, quand on dit me vendre, mais me vendre pour celle que je suis. J'ai pas envie qu'on me croise dans la rue et qu'on se dise ah, finalement, c'est tout à fait une autre personne. Bah non, celle que je suis sur les réseaux, même si je décide de montrer ce que je veux, mais c'est celle que je suis en vrai. Donc ce que je partage, c'est voilà, c'est les choses que je vis et où je pense aussi que j'ai de la chance de pouvoir le partager et d'avoir une communauté qui me suit et de me dire bah, si je peux aider des personnes même à travers mes publications, bah, je pense que, ouais, que les réseaux aujourd'hui c'est
utilisé. Toi ton moteur quand t'as décidé ça, alors aujourd'hui quand on est influenceuse, plus on a d'abonnés, on le sait, plus on peut faire des collabs ou des choses et ça, mais dans le cheminement, quel a été ton moteur? Et aujourd'hui, dans l'équilibre, parce qu'on sait que ça prend énormément de temps, hein, on croit que dans mettre une petite photo et tout ça, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça prend quand même beaucoup de temps, et comme tu l'as dit, ton temps est compté. Si tu mets dans la balance, entre le temps que ça te prend, qu'est-ce que tu mets dans l'autre balance? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu reçois qui te fait encore en permanence prendre ce temps-là, etc.?
Je crois déjà, quand tu dis quel est le moteur, en fait, moi, j'avais jamais réellement une stratégie. Je suis tombée un petit peu dans Instagram sans le vouloir. Et c'était plus à force de me dire, bah, tiens, les gens sont réceptifs, ça leur convient, que j'ai continué, que j'ai développé ce côté-là.
Plus sur la partie mannequinat de mémoire.
Ouais, moi, j'ai commencé comme ça, en partageant mes shootings.
Des belles images.
Voilà.
C'était pour ça, Instagram.
Que des images. Et en fait, justement, on se rendait aussi compte en disant, ah, bah ouais, elle met de belles images. Et en fait, les gens aimaient un certain temps. Sauf qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi se montrer en se disant, bah ouais, mais au réveil, attendez, moi j'ai pas la même tête, quoi. C'est sûr que quand
ça va, hein.
Oui, ça va. Non, mais
justement, quand tu dis on s'identifie à moi, alors oui, on peut s'identifier à toi clairement dans tout cet aspect confidence où tu vas te livrer sur des choses qui t'ont contrarié ou sur des points de vue ou sur des thématiques qui t'agacent parfois des coups de gueule, hein, que tu vas formuler très clairement. Mais il y a quand même, et ça je parle en tant que faisant partie de ta communauté, même si on se connaît dans la vie, il y a aussi cette partie quand même de voir des choses qui font un peu rêver. Alors je dis pas que tu vends du rêve en inventant ta vie, mais il y a ce côté tu montres tes tenues, où t'as malgré tout une belle tête, hein, une très très jolie, des réveils sans make-up. Et tu fais du sport, tu vois des amis, t'as une famille unie, t'as une vie de couple épanouie aussi, qu'on ressent sur les réseaux sociaux et que tu partages. Et ça donne, ça fait rêver en fait, hein, malgré tout, même si c'est sincère et sans artifice. Donc je pense que les gens cherchent aussi à la fois le côté très intime d'être dans la vie de la personne, mais il y a aussi ce côté, j'ai envie de lui ressembler. Enfin, je pense.
Oui, alors pour moi c'est le côté t'as envie de ressembler, t'admires et t'as envie de voir des choses positives aussi.
Ça.
Parce que par exemple moi je me suis rendu compte et ça pendant le confinement que j'avais envie de voir des choses plus positives que des coups de gueule et des, tu vois, d'être tout le temps un peu dans le côté négatif que peut avoir aussi les réseaux sociaux, j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Et c'est vrai que quand tu vois des gens qui sont heureux, qui passent du bon temps et qui mettent des belles photos, tu peux aussi avoir ce sentiment positif de bien-être. Après, ça peut vite tomber dans le côté, justement, je donne envie, jalousie, etc. Mais en tant que personne, c'est impossible à mesurer.
Non, et les réseaux sociaux, c'est là où c'est compliqué. C'est que tu auras toujours, même si moi j'ai une communauté bienveillante et j'en suis vraiment ravie, t'as toujours une part des gens qui vont se dire, tiens, est-ce que finalement elle veut que mettre des belles choses en avant? Ou après, ça fait partie aussi de mon métier. Je veux dire, je suis consultante en images pour des marques. Moi, je sais aujourd'hui mettre en avant des objets, mettre en avant des tenues. Ça fait partie de mon métier. Donc forcément, j'ai une facilité avec ça qui fait que quelqu'un d'autre essaiera de faire une photo, il en aura 10, ça va pas rendre. Moi, au bout de 2-3, j'en aurai une, mais parce que c'est partie intégrante de mon métier. Donc, c'est forcément, j'ai des facilités que j'exploite et que je mets en avant sur les réseaux.
De tes talents, au-delà des métiers, de tes talents, puisque un talent, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, qu'on fait facilement et qui, pour une autre personne, est beaucoup plus difficile. Mais pour rebondir sur ça, quand on parle d'influenceuse, c'est qu'en fait, on regarde pour s'inspirer. C'est-à-dire que, comme disait Caroline, quand tu vois quelqu'un qui fait du sport, qui prend soin d'elle, qui prend soin de sa maison, etc., le fait de regarder, je l'ai vu, les gens, ils te demandent la déco, qu'est-ce que t'as mis, etc. Donc, c'est d'influencer. Et quelque part, tu vas pas chercher des choses moches, tu vas pas chercher quelqu'un qui te laisse aller sur Instagram. En fait, ça a envie. Le mot est bon, hein, influenceuse, c'est-à-dire que je vais chercher des idées pour m'inspirer, de la même manière qu'on peut aller sur Pinterest pour s'inspirer sur des couleurs, des univers, ou un magazine. Mais je pense qu'on va sur Instagram pour s'inspirer et on est les premières à aller suivre des nanas parce qu'on aime leur look et on s'inspire de ce que ça peut donner.
Alors j'ai l'impression que ces raisons-là sont un tout petit peu en train d'évoluer. De plus en plus, je trouve qu'on a vu émerger encore plus en période de confinement, et Annabelle, tu vas rebondir là-dessus évidemment, vers d'autres, on va dire, d'autres raisons de suivre des gens. Il y a surtout parfois le côté très humoristique, le côté parfois très coaching sportif, le côté, enfin il y a des choses où justement des fois on a envie de voir des gens qui se prennent pas
quelque chose qui t'inspire.
Ouais.
Tu vas chaque fois chercher quelque chose qui va te divertir.
Ouais. Mais
c'est finalement aussi les aspects positifs.
Comme l'humour, c'est-à-dire que tu veux... Ah,
vous la laissez pas parler, mademoiselle. Ça.
Non, pas parce que on a changé. En fait, non, mais parce que non. Non, mais parce que toi, tu vas chercher quoi? Ah ouais, moi, je vais plutôt chercher ça. Oui, en fait, parce que moi, je voulais dire que non, mais parce que non, mais je suis pas d'accord.
C'est pas toi, ça. Ce que je voulais dire, c'est que
Camille Lelouch. Que veut dire? Attends, tu vois Camille Lelouch? Bah voilà, tu vois, c'est de l'humour, mais en fait, elle est hyper inspirante parce qu'elle est drôle. Vas-y.
Non, mais je pense que c'est. Tu vois... c'est le côté positif du confinement aussi. Et moi, c'est ce dont je me suis rendu compte. Moi, j'ai même désabonné des gens que je suivais, parce que finalement je me suis rendu compte que c'était des filles qui ne faisaient que du placement de produits, qui n'avaient rien d'authentique, qui n'avaient rien d'autre à dire finalement, et je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, on a besoin de personnes auxquelles on peut s'identifier, parce que c'est pas que de l'influence, c'est justement écouter un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'elle a à dire, ah ouais, c'est finalement intéressant, derrière cette image peut-être parfaite, où eh ben, elle a finalement aussi des choses à dire qui m'inspirent, qui me correspondent. Et ouais, moi, c'est les raisons pour lesquelles il y a certaines filles où je me dis, j'ai pas d'intérêt, elle a beau être...
Et donc, du coup, toi, tu regardes qui? Qui est-ce qui t'inspire? C'est quoi les comptes? Est-ce que tu cherches des comptes pour t'inspirer pour ce que tu fais? Ou toi, c'est quoi quand tu vas sur Instagram, tu vas chercher quoi?
Mais
toi,
moi, justement, je crois que je m'inspire plus des parcours professionnels de certaines, de ce qu'elles ont réussi à faire, de ce qu'il est possible de faire à travers les réseaux. Forcément, je m'inspire aussi de certaines à travers des looks, parce que j'aime bien comment elles sont habillées. Je suis des filles qui sont mannequins, bah, pour un petit peu voir comment elles évoluent. Je suis vraiment plein de personnes, autant ouais, des coachs sportifs, à un moment donné, pour me dire, ok, bah, allez, lui, il va te motiver. C'est super aléatoire, mais j'ai besoin, derrière cette carapace parfaite, des fois, qui peut paraître sur les réseaux, j'ai besoin, moi, d'authenticité. Parce que justement, moi, aujourd'hui, le métier d'influenceuse, on le voit tellement partout et qu'il y a des fois, c'est juste insupportable, quoi.
Et d'ailleurs, moi, j'aimerais rebondir là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de suivre des influenceuses parce qu'elles sont influenceuses. Parce que j'entends souvent les gens qui disent « Ouais, t'as vu, elle, nanana, nanana », le côté un peu jalousie. T'as envie de dire « Mais ne suis pas ». Je veux dire, personne n'est obligé à suivre cette personne que tu ne supportes pas. Ouais. Et il y a aussi ce côté un peu, des fois,
voyeurisme, jalousie.
Je regarde quand même ce qu'elle fait, regarde, machin, tu l'envoies à ta pote pour blablater sur...
Mais en fait... Bon, ça, c'est humain, j'allais dire.
C'est humain, mais tu vois, c'est quand même assez pervers. C'est-à-dire que tu as le côté énervant de la chose. Et moi, c'est vrai que, par exemple, j'avais à un moment fait un peu une cure anti-Instagram parce que j'étais tout le temps en train de regarder des stories. Pendant le confinement, j'ai repris cette activité du matin, regarder des stories, etc. Je me suis de nouveau rendu compte que j'avais ce truc un peu de me dire « Ah putain, elle est à la mer, ah ben ouais, super, tu vois. » Et donc je me suis dit « Merde, stop, en fait, c'est à moi de me contrôler, c'est pas aux gens de ne pas poster qu'ils sont à la mer, tu vois, c'est ça. »
Oui. Et c'est un sujet qu'on avait évoqué, parce que même si on n'a pas enregistré de podcast, on a quand même fait des lives avec la team des Grandes Girls, et c'est quelque chose qui revenait pendant cette période de confinement, c'est que oui, il y avait des personnes qu'on suivait, qui nous inspiraient, mais il y avait aussi, et en tout cas c'était le cas pour moi, quelque chose d'assez culpabilisant. C'est-à-dire qu'on suit des gens qu'on trouve super et qui font de la méditation, qui font du coaching.
Tu vois, il y en a qui se lèvent tous les matins, qui te disent qu'elles font leur morning miracle.
Non.
Et toi, tu fais rien.
Du sport, qui faisait à manger, qui jardinait, qui rangeait.
Ça, c'est pas moi.
Qui rangeait leur intérieur.
Mais c'est ce souci aussi.
En fait, ça rendait ta vie, ou en tout cas, ton non-envie de faire, de procrastiner, ou ne serait-ce que travailler, dans mon cas, du matin au soir, mais en disant, oui, ben moi, franchement, je l'occupe à d'autres choses, mon confinement, et même si j'avais du temps libre, j'aurais juste envie de me poser, faire des zooms
de
avec des copains,
boîte,
ou des apéros à distance, parce que moi, le côté coaching, sportif et autres, ben, j'ai pas envie de me sentir... en marge, en fait. Et on a ressenti ça davantage pendant le confinement. Il y avait ce côté culpabilisant.
Oui, ça, je suis entièrement d'accord. Oui, c'était...
Mais là, qu'est-ce que je t'ai dit? Oh, tu ne me souviens plus du conseil de la coach?
Tu m'as dit, je t'aime, Caroline, tu es la meilleure. Non, c'est pas ça? Non.
Non, en fait, les autres ne te font pas culpabiliser. Tu te culpabilises toute seule.
Bien sûr.
C'est-à-dire que c'est toi, à un moment, c'est le regard qu'on pose sur les choses. Et à partir du moment où moi, je décide qu'à un moment, j'ai pas envie de faire ça ou que j'ai pas envie de faire ça, et que tant mieux que les autres le fassent, à ce moment-là, il y a rien. C'est-à-dire que les autres n'ont pas le pouvoir de me faire culpabiliser.
Ah non, mais je
le
vivais très bien. J'entends.
Ah oui, on a bien compris.
Ah non, mais en fait, moi, je culpabilisais pas. Hein. C'est les échos que j'en avais. Hein.
Mais c'est même ce côté-là, justement, où à un moment donné, il faut te dire, bah ouais, je suis maman, mais je suis pas forcément, moi en l'occurrence, je suis pas celle qui cuisine tous les jours, qui a une passion pour la cuisine. Et du coup, c'est des choses que je dis aussi ouvertement, parce que pour aussi faire déculpabiliser certaines qui se disent...
Allez, dis-nous que parfois, le soir, tu donnes des céréales avec du lait.
Non, c'est pas mal.
Non, mais des coquillettes au jambon, les enfants, ouais, ceux-là, à mon avis, les miens...
Genre là, je te balance ça comme si c'était le truc vraiment, les jours où vraiment je ne peux rien faire. Je fais des coquillettes au jambon.
Ouais, je fais un petit bœuf en daube.
Bon. Tu prends celle qui cuise en 3 minutes, là, c'est 3
mais
minutes.
Mais c'est super rapide.
Tu coupes le jambon, tu mets un peu de fromage,
les enfants.
C'est parti.
Tu le fais super bien, le à table, les enfants.
Ouais, tu vois.
Hein, t'as vu, j'ai envie d'être un enfant.
À table, les enfants. Oui, maman.
En plus, j'ai faim.
Alors moi, du coup, je voudrais qu'on oriente et qu'on parle aujourd'hui, et comme ça, on va faire une belle transition pour finir sur Annabelle. C'est ce rôle de maman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est des superwomen, puisqu'on doit trouver un joyeux mix entre... passer du temps de qualité avec son enfant, travailler, passer du temps avec son amoureux et en prendre soin, vivre des moments en famille qu'on arrive à créer, des moments de partage, avoir du temps pour soi et en plus avoir du temps pour les autres. Donc tout ça, c'est un merveilleux mix. Et donc, je voulais partager avec toi un petit peu, Tédip, qu'est-ce qui a fait que, et en plus quand on rajoute un enfant là-dessus, c'est quoi les clés de l'organisation? Alors moi, je m'en suis mis quelques-unes. Hein. La première qui est fondamentale, c'est le planning. Hein. Parce
que ça... tu vas commencer à faire culpabiliser les gens qui nous écoutent et qui sont
pas de planning,
qui sont mamans. Ah, j'ai pas de planning. Comment je
t'es
fais?
T'es obligé. Enfin, en un plus,
minimum,
quand t'as plusieurs enfants,
d'avoir un minimum.
Déjà noter tous les rendez-vous, les activités, les machins, etc., et d'organiser. La deuxième chose, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que si tu n'anticipes pas les journées, les week-ends, les courses, etc., ce qui va se passer.
Moi, je dirais le plan B, c'est pas mal aussi. Parce que quand t'as ta petite qui se réveille, qui a 39 de fièvre, mais que t'as un rendez-vous à 9h, et tu dis, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc le plan
c'est
B.
L'anticipation, c'est ouais, ça, ouais. C'est toujours de se dire ok, il y a un plan B, exactement, hein, et ça, en plus bébé, ça arrive ouais. Beaucoup plus souvent, et puis de se laisser des créneaux libres aussi, parce que quand on planifie trop de choses et qu'à un moment il y a un imprévu, c'est d'arriver aussi à avoir des créneaux libres, de se lever tôt le matin. Alors je reviendrai sur mon morning miracle pour ceux qui n'étaient pas là pendant les lives du confinement. Je partage les bénéfices que peuvent être le morning miracle. Moi, j'ai été une personne qui pendant des années, je gagnais la moindre minute le matin, je posais la veille, je préparais mon bol, la cuillère, les petits médicaments, les habits, la culotte, le truc, ça, pour gagner la moindre minute de sommeil. Et aujourd'hui, je me lève 2 heures avant de démarrer mon activité et je prends ce temps-là. Et donc, quand on est maman, c'est aussi le temps pour méditer, pour écrire, pour faire du sport, pour regarder ses blogs.
Voilà, on retombe dans la culpabilisation. Toutes celles qui nous écoutent disent oh, « Mais je fais rien de tout ça, je suis vraiment une merde !»
Et donc, inspirer, c'est dire aux autres, et moi je vous invite vraiment à le tester, parce que c'est toujours pareil en fait, je l'ai souvent dit, mais je le répète, en fait, quand on veut mettre en place un changement dans sa vie, il faut que le bénéfice soit supérieur à l'effort que ça va demander de changer quelque chose. Donc si me lever 2 heures plus tôt, je le fais, mais qu'au final, je me force et que je n'ai pas de bénéfice et que je le subis, et qu'en plus de ça, ça change rien dans ma vie, ça ne fonctionnera pas. Moi, le partage d'expérience que je fais, c'est que même si ça me coûte de me lever plus tôt, les bénéfices que j'ai sur la journée, le fait d'avoir le temps et de ne pas être en stress, de méditer, de poser le temps sur ma journée, d'avoir l'impression de faire du sport, comme ça le soir, je culpabilise pas si je suis crevée, si je dois me faire une violence pour faire, etc. Je l'ai déjà fait le matin, de prendre le temps d'écrire, de poser l'intention de la journée et en fait de démarrer vraiment comme si en fait tu avais déjà eu une journée que quoi qu'il arrive après, tu as déjà eu ton moment pour toi. Et ça, quand tu l'expérimentes et que tu y vois le bénéfice, en fait c'est plus un effort de le faire.
Comment on va vers des personnes qui n'auraient pas entamé, comme beaucoup d'entre nous, ce morning miracle qui a l'air très miracle justement, pour ne pas faire peur à celles et ceux qui nous écoutent, comment entamer ce processus-là ?
Alors, on achète le livre, Morning Miracle, Miracle Morning.
Allez, il est vachement bien son bouquin.
Voilà.
Rien que de le lire, c'est déjà bien.
Rien que de le lire, déjà, t'as l'impression de le faire.
Et après, tu te lèves à 11h, hop.
Et après, en fait, le principe est simple, c'est-à-dire que quand tu lis le livre, c'est vraiment se lever en plus avant le lever du soleil, etc. Donc forcément, c'est comme tout, c'est comme tu vas écouter des yogis qui vont t'expliquer quand tu vas te mettre au yoga, c'est à l'extrême ou la méditation. Moi, je pense en fait qu'il faut le faire à son propre rythme. Le principe en lui-même est simple. C'est de prendre le temps le matin, de poser l'intention sur la journée. C'est-à-dire de ne pas être dans « je suis pris par ce qui m'arrive » et comme une sensation de perdre le contrôle de ta vie. Le fait de s'accorder du temps le matin, c'est un moment où je prends le temps de me connecter à moi, de me connecter à mon environnement, de me connecter au sujet de la journée. Et par exemple, moi c'est ce que j'ai toujours fait, ce que je fais quand les gens arrivent en réunion, arrivent en formation, etc. On ne démarre pas sur le sujet. La première question, le premier tour de table que je fais, c'est « comment tu te sens ? C'est quoi ta météo intérieure ?» On fait le tour comme ça, on sait qui est là et c'est quoi tes attentes par rapport à aujourd'hui. Eh ben, c'est exactement la même chose. Si tu te lèves le matin et que tu prends le temps de te dire « Ok, comment je me sens ? J'écoute mon corps, de quoi j'ai envie ? Je pose l'intention sur la journée, qu'est-ce que j'attends sur cette journée ?» Eh ben, il y a plus de chances aussi que ça se passe. Et c'est aussi s'écouter en fait. Et je ne sais pas si tu te souviens quand on avait vu la... Je vais dire une bêtise.
Tu veux me le dire à l'oreille ?
Tu sais, la moine bouddhiste.
Oui, la moine bouddhiste, tout à fait.
D'accord. On dit bien la moine, voilà.
Nonne.
La nonne.
Nonne bouddhiste, voilà. Ouais. C'est une nonne.
Et donc, elle nous avait parlé du silence et de cette... du bénéfice incroyable,
cure de silence,
des cures de silence. Alors, évidemment, nous lui avons expliqué que je pense que le bénéfice était forcément inférieur à l'effort.
Pour nous, c'est compliqué.
Pour nous,
quoi.
Voilà, donc on ne sentait pas de le faire. Mais elle nous conseillait de faire des pauses dans la journée, pause d'écran, pause de son, pause de tout, et juste respirer, et juste à un moment s'écouter, parce qu'en fait, on s'écoute même pas si on a faim, pas faim, envie de ça, etc. Donc rien que de faire des pauses dans la journée et de s'écouter, de se reconnecter à soi, ses sensations et son corps, rien que ça, c'est bon. Donc en fait, pour répondre à ta question, c'est que les gens qui se demandent et que ça paraît immense, le message c'est juste de dire qu'est-ce que je pourrais faire pour un moment, peut-être le matin, si je devais me donner un peu de temps pour moi, je le passerais à quoi ? Qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce qui me ferait du bien ? Ou de faire des pauses dans la journée. Et après, c'est toujours pareil, c'est de tester.
Et donc, c'est
tester,
ça,
c'est l'adopter.
Ça, c'est évidemment de superbes recommandations pour la mème ou le papa, évidemment, mais ça vaut pour toute personne.
Évidemment.
Après, tu vois, la première chose à laquelle je pense, c'est que par exemple, quand t'as passé une nuit un peu chaotique parce que t'as ton bébé qui fait les dents, le matin, le morning miracle, moi je préfère me dire ah non, bah, je dors encore une heure de plus parce que t'as du sommeil à récupérer. Donc là encore, c'est quand tu parlais avant de déculpabiliser les gens, c'est de se dire peut-être pas le faire tous les jours au départ, essayer de le faire quand est-ce que tu peux, parce que t'as d'autres situations qui font que non, là tu vas essayer de rattraper le sommeil que tu as à récupérer et du coup tu le feras à un autre moment. Mais par contre, je te rejoins, c'était moi notamment pendant le confinement, 3 enfants, donc toute la journée, qu'il fallait forcément occuper. Ce que je demandais, c'était d'avoir une heure en général où j'étais pour moi, où il n'y avait pas de maman, où il y avait même le silence, ce fameux pas de bruit. Alors, j'allais pas me cacher dans un coin de la maison.
Ça fait penser d'ailleurs à Laura Calu, vous l'avez vu, j'imagine, cette parodie où l'humoriste se transforme, se cache sous le lit pour éviter son gosse.
Elle n'en peut plus. Mais parce que finalement, je me disais, il faut que je souffle, il faut juste que je souffle parce que tu t'es coincé chez toi, t'as les 3 enfants qui te demandent toute la journée et rien que le fait de ne pas entendre un maman pendant une heure, c'était de dire, allez, c'est la seule chose que je vous demande et c'était un peu là où moi j'essayais de me dire, tiens, je faisais pas forcément de sport à ce moment-là.
Tu fais un day miracle, toi.
Ouais, c'est ça, c'est que je me disais, allez, laissez-moi juste. En plus, il faisait beau, donc on avait l'avantage d'avoir un jardin et donc moi je me posais souvent au soleil en me disant, maintenant le téléphone il est éteint, donc pas de réseau. Les enfants, ils savent que pendant cette heure-ci, les 2 grands, vous ne m'appelez pas. Et la petite, elle était à la sieste. C'est là où je priais. Tu vois, je disais, allez, s'il te plaît, dors une heure.
C'était ton afternoon miracle, en fait.
Ouais, c'est ça, voilà.
Et pour finir, tu parles de sommeil. Quand tu dis quand tu n'as pas dormi la nuit et tout ça, moi, une vraie recommandation. Et je pense qu'après, tout le monde a un besoin de sommeil différent. Mais un des vrais secrets, c'est de se coucher tôt aussi. Et surtout quand tu as un bébé. C'est-à-dire que tu as tendance à te dire, ma journée, elle commence quand je le couche à 8h ou 8h30. Mais en fait, le secret pour moi, c'est vraiment de se coucher tôt, très vite, et de ne pas attendre minuit, 1h du mat, etc. pour se coucher. Et je pensais à ça parce que j'ai regardé la routine de Caroline Receveur qui mettait 22h couchée, 6h levée pour lever, elle mettait son truc et en fait 22h00 couchée.
Ouais.
Et en
fait, par exemple, typiquement, elle ne m'inspire pas. Donc si je vois ça,
pourtant,
je
ne t'appelle Caroline.
Oui, donc si tu veux, à partir du moment où je vois ça, je vais alors je dis pas, elle fait bien ce qu'elle veut évidemment, et si ça l'aide dans son quotidien. Ah,
mais
sur
le sommeil, on s'inspire pas. C'est simplement que le clin d'œil, c'est que j'ai vu ça et je me suis dit que c'est une vérité, c'est que c'est vrai. En tant que maman, et je prends par rapport à la posture de maman, qui est se coucher tôt. Quand tu as le rythme des journées, le lever tôt, c'est le vrai secret. Quoi. C'est vraiment
moi, aujourd'hui,
tôt.
Quand j'ai les journées qui sont chargées,
il y a un vrai point. Ça dépend aussi du partenaire avec qui on vit. C'est-à-dire que si le moment après le coucher, c'est le moment où tu retrouves ton partenaire parce qu'il rentre de travail ou parce que c'est vraiment la bulle dans laquelle tu peux être sans enfant, tu as couché et que ça poursuit jusqu'à 23h30, minuit, parce que au moins, ça dépend du rythme de chaque famille,
je
de
pense
chaque
que
foyer.
La clé, c'est la routine. Enfin, la routine.
L'équilibre
et le sort de planning habituel,
rituel,
c'est-à-dire
qu'il
faut pas les rituels.
Et les rituels, parce qu'en plus les enfants adorent les rituels.
Ouais. Et du coup, c'est ce qui crée, tu vois, le livre le soir, le machin, le fait de se lever, de prendre le petit déj ensemble, c'est aussi des choses qu'on réinvente et qu'on a réinventé pendant le confinement.
Après, il y a des gens qui ont besoin de 4-5 heures de sommeil, 8 heures de sommeil, ça, mais de manière générale, en tout cas, dans l'organisation et du guide de la super maman, en tout cas, moi, ça fait partie des tips, je sais pas ce que t'en penses.
Si, mais comme dit, après, voilà, faisable, se laisser la possibilité de se dire, je l'ai pas fait tous les jours, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, c'était pas gérable, je le ferai demain, j'essaierai de le faire demain, tu vois. Moi, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est pas se mettre de pression. Et aussi arrêter ce côté mère parfaite, mais ça existe pas, quoi. On essaye chacune de faire au mieux. Comme on pense faire au mieux, et y a des fois où ça va pas, et c'est pas pour autant que t'es pas une bonne maman, mais c'est juste se laisser une part des choses où on se dit je fais de mon mieux. Voilà, je fais de mon mieux, et si c'est pas fait, si j'ai pas fait mon cours de sport aujourd'hui, je l'ai pas fait, je le ferai demain, et ma foi, c'est la vie.
Dans un mois. Ou dans deux.
Faire de son mieux. Est-ce que, Annabelle, tu vas nous dire comment faire de son mieux et nous donner en tout cas des outils ou des
oui,
choses?
Je suis spécialisée là-dedans.
Sophie, tu restes avec nous, tu écoutes avec nous, découvrir.
Je vais plutôt parler en fait de ce que j'ai découvert sur Twitter en fait pendant le confinement et aussi post-confinement. Alors c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la charge mentale pour les mamans en dehors du confinement déjà. On l'a découvert avec le confinement et en fait moi j'ai suivi ces mamans sur Twitter. Donc Twitter, je rappelle, c'est un réseau en fait de discussion où on échange. C'est un réseau où en fait on peut mettre des petits coups de gueule, des petits coups de cœur. On suit l'actualité en général aussi. Et en fait, on peut s'exprimer assez facilement. C'est-à-dire, on peut en une phrase dire « j'en ai marre de mes gosses, ça me saoule » ou « je sais plus quoi faire de machin, mon gamin arrête pas d'hurler, je sais pas comment le calmer ». Enfin voilà, les gens échangent là-dessus. Et c'est vrai que moi, j'ai suivi régulièrement des femmes qui étaient actives, confinées, mais qui travaillaient, hein, qui n'ont pas pris de congé, paternité, je sais plus comment ça s'appelle, congé parental, pardon. Je vais y arriver, le congé parental, et qui ont décidé de continuer à travailler avec leurs enfants qui étaient présents, et aussi souvent leur conjoint, qui lui aussi, ou elles aussi, ou
donc, rassure-moi, tu les suivais pour te rassurer que ça pouvait être pire.
Non, alors en fait, c'est que moi, pour la petite histoire, j'étais aussi confinée avec des enfants qui ne sont pas les miens et qui sont grands. Et en fait, j'ai découvert en fait ce que c'était l'organisation quotidienne de l'enfant qui se lève, que tu dois réveiller, la maîtresse qui appelle, le coup de fil à la maîtresse, le coup de fil à machin, le truc, les devoirs, le bidule, la douche. Prendre une douche, pour moi, c'est logique. Je prends ma douche tous les jours. Pour un enfant, plus compliqué. Quoi, c'est déjà la douche, mais j'ai pris il y a deux jours.
Ouais, j'ai pris
il
y a deux jours.
D'accord, c'est ok. Ça. Oui, tous les jours. Il faut que tu prennes ta douche, ou tous les deux jours. Mais en gros, il faut rappeler que c'est le moment de prendre sa douche. Ne pas rester en pyjama toute la journée, c'est des choses qui sont arrivées.
Et du coup, ne pas rester en pyjama avec un bun et toujours le même sweat.
À un moment, tu as les cheveux quand même. J'arrête. Mais bon, bref, peu importe. Twitter a été en fait un endroit où les gens ont échangé et surtout ont échangé des tips. C'est-à-dire, par exemple, premier week-end de confinement, on est confiné avec des enfants, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, on ne peut pas se dire, on va faire du roller, on va faire du vélo, on va faire du machin. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette journée ? Et du coup, par exemple, moi, j'ai trouvé des cours de jeux vidéo. Donc, comment développer soi-même un jeu vidéo sur Internet ? Et donc, en gros,
Les deux garçons ont développé chacun à leur niveau des jeux vidéo auxquels on a joué après, etc. Et du coup, ont appris le code HTML, enfin voilà, tout plein de choses auxquelles je n'aurais strictement jamais pensé, parce qu'habituellement, on aurait dit, bah si, sortez, allez sur la place du tribunal, allez faire du roller. Et puis voilà, c'est le truc de... Et là, t'es obligé de trouver une activité et t'es obligé d'expliquer des choses. Et puis pareil, aide aux devoirs de
dingue. Respire, Annabelle, respire.
Oui, je sais.
D'ailleurs, vous voyez autour de cette table, on a quand même une super belle maman. Voilà.
Et c'est vrai que voilà, l'aide aux devoirs était complexe. Et en gros, donc, besoin d'aide, besoin de mettre des règles en place. C'est pareil, moi j'ai trouvé sur Twitter les règles de la maison. C'est-à-dire pas les règles, vous savez, la fiche qui est vendue partout. Hein, on est sympa les uns avec les autres. Non, c'était les règles avec les enfants. C'est-à-dire, ben, on se lève à telle heure, on a le droit de rester en pyjama le week-end, mais pas la semaine. Et en fait, c'est des choses qu'on a mises en place, nous aussi. On a écrit tous ensemble autour d'une table les règles de la maison et pendant le confinement. Et c'est vrai que l'idée, c'était vraiment d'utiliser Twitter pour avoir des conseils. Et moi, souvent, je disais, je ne sais pas quoi faire, quelqu'un a une idée. Et en fait, on me répondait, on a pu échanger. Et il y en a plein qui ont aussi râlé, tout simplement, qui ont pété des câbles. Et on l'a vraiment senti, en fait, cette charge mentale sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que sur Instagram, au contraire, moi, je voyais justement le côté bon temps et tout ça. Prenez du temps pour vous, c'est le moment de se lancer dans des nouvelles activités, lire un livre et tout ça. Et moi, je me disais, mais qui sont ces gens qui ont le temps de, là, lire un livre? Moi, déjà, voilà, c'est déjà compliqué. Le soir, je me couchais épuisée.
Eh bien, moi, je reçois, alors, je fais une petite parenthèse, je reçois chaque matin, par mail, une page de Proust. C'est tout.
Génial.
Je referme la parenthèse. Donc, ça évite de lire un livre, mais tous les matins, tu as une page de Proust envoyée. Alors, je ne les lis pas, mais je reprendrai le mois que j'ai perdu.
C'est stocké.
Ça n'aura aucun sens, puisque c'est une page, ça va dans tous les sens. Donc, je vais reconstruire l'histoire, moi.
Et en plus, alors, je ne rebondis pas sur ce que tu viens de dire sur Proust, mais c'est vrai que sur Twitter, il y a eu deux côtés. Il y a eu le côté aide et il y a eu le côté. C'est-à-dire attaque directe, mais t'as un gosse, t'es pas contente, pourquoi tu râles, t'avais qu'à pas le faire, des choses comme ça, assez violentes.
Mais je trouvais choquant parce que quelque part, quand sur les réseaux, t'affichais en disant, tu sais quoi, je suis fatiguée, en fait, je suis fatiguée d'être H24 avec les enfants, et là, juste envie de souffler, c'était ce côté où limite, tu paraissais pour une mauvaise mère en disant, mais comment tu peux te plaindre, mais profite, non, moi, j'adore ma vie active, j'adore avoir du temps pour moi aussi, et ça n'empêche pas que j'aime mes enfants éperdument. Et c'était ça, moi, qui me dérangeait sur les réseaux en disant, mais finalement, il faudrait maintenant se dire, c'est tellement bien d'être confiné.
Ouais, c'est bien, mais quoi. Je vais vous expliquer la grande différence. Quand il y a des personnes qui viennent te dire ça en disant, tu devrais profiter, on ne peut pas profiter parce que c'est un changement imposé. À partir du moment où je fais le choix, par exemple, de minimiser ma vie active et de passer beaucoup plus de temps en famille. C'est un choix que j'ai fait et donc un choix que, quand je le décide, je suis enjouée, je suis contente. Quand on m'impose quelque chose, ce qui a été le cas pendant ce confinement, c'est-à-dire qu'on t'impose à un moment de devoir faire les devoirs, de devoir tout faire, comment tu veux prendre du plaisir sur quelque chose qui est imposé? Alors certes, tu t'adaptes, tu joues après sur ta capacité d'adaptation, comme tu dis, en t'inspirant, en commençant à trouver le rythme, etc. Mais à la base, personne n'a demandé ça. Et après, la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que si on a vu aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, mais sur plein d'autres sujets, et on aurait pu avoir même Strasbourg, Noémie, elle aurait pu
ou
aussi
Wafa.
Bien...
Ouais,
ou Wafa. Wafa. Ouais. Non, mais je parle de Noémie pour une bonne raison, c'est parce qu'elle a dû gérer, alors pas des insultes, mais des échanges assez virulents entre mamans ou des mamans qui s'énervaient parce qu'il y avait des gens dans la rue qui étaient ensemble, etc. En fait, il faut savoir, et je l'ai expliqué, c'est que ce qu'on a vécu est un traumatisme. Et à partir du moment où il y a traumatisme, il y a processus émotionnel, la résilience. Et la deuxième étape, c'est la colère. Donc les gens ont été en colère d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui sont restés dans la colère, mais de manière générale, il y a beaucoup de gens. Et quand tu es en colère, eh ben, t'en veux à la terre entière. Et les réseaux sociaux, Annabelle, tu le diras, est quand même un terrain de jeu génial, surtout quand tu es en confinement, pour pouvoir vider ta colère. Et quand on a vu quand même sur le confinement, dans le confinement, des élans de haine, des élans de critique, c'est de la colère.
Tu sais, nous prends le truc où tu dis, nous on a une maison avec un jardin, et c'était une des premières fois où j'ai reçu un message en disant, t'es obligé d'afficher que t'as un jardin, mais je vais pas m'en cacher. Moi, j'ai un jardin. À un moment donné, on a été confinés. J'y peux rien si t'es confiné dans un petit studio. Mais c'est là où tu te rendais compte que les gens étaient, les nerfs étaient sur le point de lâcher. Et qu'à un moment donné, il fallait que tu mettes une photo de ton jardin où effectivement mes enfants pouvaient courir. Et où on te dit, t'es obligé d'afficher ton jardin. Mais tu vois, c'est réellement ce qui, justement, ce qui pendant le confinement a eu lieu, c'est que t'as eu justement cet accès de colère parce qu'on nous a imposé quelque chose et que certes.
Oui, mais force est de constater comme ça, quand même, et je te rejoins, Sophie, mais qu'il y a eu confinement et confinement. Et même s'il y a eu toutes ces étapes émotionnelles dont tu parles, Katia, très justement,
il y avait des vraies différences.
Il y avait de vraies inégalités qui ont été renforcées.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit rien faire ?
Non.
Tu vas ?
Clairement pas, mais c'est pour ça que cette colère s'est amplifiée en voyant un cadre, un environnement qui, sur le papier, était quand même plus supportable, comme le cas d'une maison avec piscine, qu'un studio entre quatre murs. Voilà.
Bien sûr, mais après, tu vois, par exemple, moi, je suis allée faire un tour de vélo. On était confinés. Je veux dire, j'avais le droit de faire un tour de vélo.
J'en ai entendu parler de cette histoire.
l'enfant en roller, et je fais une vidéo avec une musique un peu nostalgique en disant j'adore ce moment, j'adorais faire du vélo tout le temps comme ça et toute la journée. Et du coup, je me suis fait insulter. C'est-à-dire, mais tu te rends pas compte, t'es en vélo, en plus t'es sans masque, en plus t'es machin, nanana, tu montres le mauvais exemple, oula. Et là, je me suis sentie, j'ai encore là, vous voyez le côté, je me suis sentie mais agressée et je me suis dit, mais attends, donc j'ai bien sûr tout supprimé en me disant je suis complètement tarée, je n'aurais jamais dû faire ça. Et ensuite, j'ai utilisé Twitter pour dire vous vous rendez compte quand même ce qui vient de m'arriver. Et là, les gens étaient là, non, mais ils sont tarés, surtout. Et donc, c'est aussi.
Comme c'était au début du confinement, Annabelle, c'est quand les gens étaient en colère. Et donc là, tu ne comprends pas. On te prive de quelque chose. Et comme on te prive de liberté, quand tu vois quelqu'un qui la prend, tu vis un sentiment d'injustice.
Tu vas sortir une demi-heure dans la journée, tu vois.
Oui, mais tu ne sais pas, la personne, quand elle voit ça, elle ne sait pas que tu es sortie de minute, elle est enfermée chez elle, et elle voit ça, elle se dit, putain, mais si tout le monde fait ça, il y a eu beaucoup de colère pendant cela.
Bref. Mais c'est vrai que du coup, moi je trouve que d'utiliser Internet pour, j'appelle, spread the love, c'est-à-dire essayer d'être positif. Essayer d'être positif sur Internet. Bien sûr, raconter les galères qu'on peut avoir, poser des questions, mais d'une façon positive, c'est-à-dire pour demander conseil, pour dire, vous voyez, je suis aussi dans la galère, mais pas pour dire, j'en ai marre de
sans
tout.
Sans que ce soit méchant, en fait. C'est voilà. Ça, c'est finalement, c'est ça. Tu peux te dire, ah bah tiens, elle aurait pu te dire, ah bah mince, comment ça se fait que t'as pu sortir en vélo. C'est la manière, en fait, dont les gens posent les questions, et parce que c'est pas une question d'interprétation, c'est la manière dont on te l'écrit.
Voilà, merci beaucoup, Annabelle.
Bah de rien, hein, en tout cas,
on pourrait rester pendant des heures,
s'il vous
mais
plaît,
ça fait déjà.
Tous qui m'entendent, spread the love on the internet. C'est mon nouveau slogan. Voilà.
En fait, on finira par une note positive, c'est qu'en fait, et là, pareil, je remettrai un mot dessus, nos pensées font notre vision du monde. Donc, si tu penses négatif, tu vois négatif. Donc,
c'est ça.
Beaucoup plus de positif. Et puis, on finira par souhaiter, en tout cas, une très belle fête à toutes ces mamans magnifiques qui font de leur mieux parce qu'elles aiment leurs enfants et parce qu'elles font de leur mieux.
C'est ça. Comme elles peuvent.
Et comme elles peuvent.
Oui,
exactement.
Et qu'elles n'ont pas culpabilisé.
Non, exactement.
Et faites-vous confiance.
Et faites-vous
demain,
confiance.
Je fais le Morning Miracle,
tous ces
moi.
Messages,
je
ne
sais pas
là.
Vous, mais demain, je le fais.
C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours.